Bonsoir, nous allons passer presque une heure et demie ensemble pour discuter des organismes génétiquement modifiés et en particulier des plantes génétiquement modifiées qui sont utilisées à des fins de l'alimentation humaine ou animale ou leurs produits, plantes ou les produits des plantes utilisés comme aliments. Directeur scientifique honoraire, ça veut dire que je n'ai plus mes responsabilités de directeur scientifique à l'INRA, qui étaient lourdes, puisque je devais animer scientifiquement une vingtaine de laboratoires, un millier de personnes au total, dont la moitié de chercheurs, dans le domaine de la nutrition humaine et de la sécurité sanitaire des aliments. C'est pas seulement à ce titre-là que je suis là ce soir, je pense, et je voulais quand même vous dire pourquoi j'étais là et ce qui me donne une certaine légitimité, puisqu'on est dans une situation où tout le monde se mêle de parler de tout, et y compris les scientifiques qui abordent tous les sujets, même s'ils n'ont pas de compétences particulières pour les aborder. Et c'est peut-être une des raisons de la difficulté de se faire une idée. En tout cas, j'imagine que vous avez pas mal de difficultés à vous fixer les idées sur, en particulier, les sujets scientifiques. J'étais depuis plus de 20 ans membre de la commission de génie biomoléculaire. C'est une commission, c'est compliqué comme intitulé, hein. C'est en fait une commission française qui donne des avis sur les risques pour l'environnement et pour la santé animale et humaine des organismes génétiquement modifiés. Vous voyez, elle existe depuis plus de 20 ans. Alors, vous trouverez sur des sites internet des gens qui vous disent qu'on ne s'occupe pas des OGM et qu'on n'a rien fait et qu'on ne fait rien. La France a mis en place, ça a été le premier pays à mettre en place une commission pour s'occuper de ces problèmes, et donc il y a plus de 20 ans. Bon, ensuite, j'ai présidé le conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, qui a été créée en 1998, et qui s'occupe aussi de l'évaluation de la sécurité sanitaire des OGM. J'ai présidé des comités scientifiques au niveau de l'Union européenne, donc à Bruxelles. Comité scientifique de l'alimentation humaine, le comité scientifique directeur, sont des comités scientifiques qui, eux aussi, ont eu à donner des avis sur les risques sanitaires liés à la commercialisation des OGM. Et puis, jusqu'à vendredi dernier, j'ai participé à un groupe de travail d'un comité scientifique sur les OGM de l'Agence européenne de sécurité alimentaire. Donc, c'est une agence comme l'agence française, comme l'AFSA, mais qui, au niveau européen, donc, s'occupe des problèmes de sécurité sanitaire de l'alimentation. Et puis enfin, donc, je travaille au niveau de l'OMS depuis une bonne dizaine d'années sur des problèmes également de sécurité sanitaire. Donc, j'ai baigné dans l'évaluation de la sécurité sanitaire des OGM depuis un certain temps. Alors, voilà ce que je vous propose pour ce soir. Donc, successivement, on va voir un certain nombre d'événements importants dans le génie génétique avec les dates, et on remontera à un peu plus de 50 ans, ou à peu près 50 ans. Une définition générale des organismes génétiquement modifiés, des plantes génétiquement modifiées, pas une définition réglementaire, mais simple, pour bien comprendre de quoi il s'agit, et que c'est pas la même chose que... C'est vraiment une nouvelle technologie. Comment on fait pour obtenir une plante génétiquement modifiée? Où on en est? Où est-ce qu'on en cultive? Et combien on en cultive? Et quel type de plante génétiquement modifiée on cultive? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce génie génétique appliqué aux végétaux par rapport à ce qui existe aujourd'hui? Je crois que ça, c'est tout à fait important, parce que une bonne partie des critiques qui sont formulées vis-à-vis des OGM aujourd'hui pourrait être abandonné si on utilisait d'autres applications. Et puis, je vais focaliser mon intervention sur les risques pour la santé, donc la sécurité sanitaire. Et je ne vous parlerai pas des risques pour l'environnement, parce que je n'ai pas les compétences, même. On pourra l'aborder pendant la discussion, mais je n'ai pas les compétences parce que ma recherche n'a pas concerné ces problèmes pendant les 40 ans pendant lesquels j'ai été chercheur au CEA, au CNRS et à l'INRA. Donc, quelles questions de sécurité sanitaire? Et est-ce qu'on a les outils pour les aborder correctement? Est-ce qu'on a les méthodes pour répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser, que tous les consommateurs peuvent se poser? Comment on peut améliorer la situation? Et là, on verra que la recherche a un rôle fondamentale à jouer pour améliorer les méthodologies. Et puis, je voudrais qu'on termine sur le rôle des scientifiques au milieu de ce problème de société, finalement, et de ces relations du scientifique avec les médias, avec les industriels, donc avec les firmes de biotechnologie qui préparent, qui fabriquent les semences génétiquement modifiées, les relations aussi des scientifiques avec les organisations non gouvernementales. Et puis finalement, qu'est-ce que ça veut dire que ce type de débat quant à la place de la science, de la technologie et de l'innovation dans la société? Et puis on pourra revenir longuement dans la discussion sur ces derniers points qui sont moins scientifiques mais très importants tout de même. Donc, quelques points d'histoire. Je vous ai dit qu'on allait remonter un peu plus de 50 ans. Watson et Crick, en 1953, décrivent la structure de l'acide désoxyribonucléique, c'est-à-dire le porteur de l'information génétique. Donc vous voyez que ce n'est pas d'hier. Et un progrès considérable a été fait quelques années après, en 1961, bon, en particulier par Jacob et Monod, qui ont reçu le prix Nobel de médecine pour les travaux qu'ils avaient réalisés. Et puis avec Nirenberg et Ochoa, qui ont finalement compris comment cet ADN, porteur donc de l'information génétique, pouvait faire fonctionner notre organisme. À partir de cet ADN, comment ça fonctionnait, comment ça marchait, et comment on arrivait à synthétiser en particulier les protéines qui constituent notre organisme d'une part, et qui sont des moteurs très importants, que sont les enzymes pour le fonctionnement de notre machine humaine. Alors, vous avez certainement entendu dire que le génie génétique, et cette fabrication d'OGM, c'était quelque chose d'antinaturel, que ça n'existait pas dans la nature. C'est faux. C'est faux. Enfin, j'en ai au moins un exemple, mais il y en a certainement d'autres. En 1970, on s'est aperçu qu'un micro-organisme qui s'appelle Agrobacterium, et qui est une bactérie du sol, était capable de transférer à une plante son matériel génétique et qu'il produisait chez la plante l'apparition de cancer pour la plante en lui ayant injecté une partie de son matériel génétique. Et ça, l'homme n'y était pour rien. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que les technologues ont utilisé pour réaliser des transformations génétiques par la suite. Donc, un micro-organisme naturel présent dans le sol est capable donc d'injecter une partie de son matériel génétique dans celui de la plante et de la transformer de cette façon. Et donc elle va développer ce qu'on appelle un chancre en physiologie végétale, qui est en fait une tumeur de la plante. 1973, ça fait plus de 30 ans que, en laboratoire, on a créé la première bactérie, donc un micro-organisme génétiquement modifié. 81, eh bien, c'est pas une plante qui a été le premier organisme supérieur transgénique, ça a été un animal. Ça a été la souris. Et en fait, pourquoi la souris? Parce que c'est plus facile de transformer une souris que de transformer même un rat, et à plus forte raison que de transformer une vache. Enfin, maintenant, on sait faire. Donc, la première plante transgénique, c'était le tabac en 1983. Là encore, pourquoi le tabac? Parce que c'est plus facile qu'avec d'autres plantes, tout simplement. Et puis, voilà, les OGM, les plantes génétiquement modifiées, dans le commerce. 1994, aux États-Unis, une tomate. Une tomate qui était commercialisée parce qu'elle se conservait mieux. Elle ne ramollissait pas quand on la conservait. Et malheureusement, elle n'était vraiment pas bonne, cette tomate. Donc ça n'a pas été un grand succès commercial. Mais on avait réussi à trouver comment on pouvait faire pour ralentir cette maturation après récolte, qui fait que si vous gardez les tomates trop longtemps, et en particulier à température ambiante, ben, elles vont se ramollir et puis elles vont finir par pourrir. Et puis, en Europe, 1997, donc ça fait juste 10 ans, qu'on a vu apparaître, autorisée en tout cas, la culture de maïs transgénique et même se développer la culture de maïs transgénique. Donc voilà pour quelques points d'histoire. Donc ça a quand même été une assez longue histoire, de manière à ce qu'on puisse maîtriser l'ensemble des techniques nécessaires pour réaliser la transformation. Alors, une définition simple, je vous ai dit, hein, un OGM, un organisme génétiquement modifié, c'est un organisme vivant qui peut être un micro-organisme. On a vu une plante, un animal, dont on a modifié l'information génétique par une méthode autre que la reproduction sexuée, donc autre que par croisement entre deux individus. Si on veut regarder ce qui se passe dans le monde végétal, la sélection traditionnelle consiste à croiser deux variétés d'une même espèce végétale, bon, j'ai pris ici le maïs, avec un parent A et un parent B, on va les croiser. Alors, chaque parent, pourquoi est-ce qu'on va les croiser? Parce que chaque parent a des propriétés intéressantes, des qualités particulières. Il y en a un qui produit beaucoup, mais qui produit un maïs qui n'est pas de très bonne qualité. Et puis, il y en a un autre qui produit un peu moins, mais qui, lui, a la qualité de résister aux insectes. Et quand on va croiser ces deux individus, eh bien, on va aboutir à une variété qu'on appelle hybride, puisqu'on a croisé, surtout pour le maïs, et qui va à la fois être une variété productive, un bon rendement, mais aussi qui va résister aux insectes. Ça, c'est ce qui se passe tous les jours, enfin, ou presque, en sélection végétale. Par génie génétique, au contraire, on va donc, hein, pas de reproduction sexuée, on va repérer quelque part, alors sur le quelque part, je vais revenir, on va repérer des gènes, donc des morceaux d'ADN, qui ont des propriétés intéressantes. Et on va essayer, par les méthodes du génie génétique, de les faire pénétrer dans la plante qui va acquérir donc la propriété intéressante qui était portée par ce morceau d'ADN, d'acide désoxyribonucléique. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour arriver à faire ça? Il faut ce qu'on appelle un transgène, un plasmide, il faut un morceau d'ADN. Donc, j'ai évoqué l'identification de gènes intéressants qui portent des qualités. Mais ça ne suffit pas, parce qu'on va chercher ces gènes dans différentes sources, donc j'ai dit que j'allais y revenir, mais qui ne sont pas forcément, enfin qui ne sont pas la plante dans laquelle on va les injecter. Donc il faut, pour que ces morceaux d'ADN puissent s'exprimer, tout un tas d'éléments qui vont accompagner le gène d'intérêt. Et donc il faut en particulier une séquence qui va déclencher la lecture de ce gène intéressant. Il faut quelque chose qui va en réguler l'expression. Alors, réguler l'expression, ça veut dire quoi? Par exemple, ben, on veut, supposons qu'il s'agisse d'un maïs, on veut que le nouveau gène, enfin, la propriété qu'on va introduire, s'exprime soit dans la feuille, c'est en général pas le cas, ou dans la graine, ou dans la tige, ou partout, ou dans la plante entière. Et donc, pour ça, on va avoir besoin de modules qui vont réguler l'expression du gène. Et alors là, on va avoir le gène d'intérêt ou un ou plusieurs gènes. Et puis, il faut quand même des séquences qui vont permettre d'arrêter la lecture de tout ce nouvel ensemble. Donc, on a des gènes terminateurs. Et puis, parce qu'il m'en manque un, pardon. Voilà. Donc, on a des gènes marqueurs de sélection parce qu'il faut repérer. Alors, ces techniques, elles n'ont pas une efficacité extraordinaire. Quand on essaye de faire de la transformation, c'est de l'ordre de 1 à 2% de transformation réussie. Donc il faut pouvoir trier les éléments dans lesquels la transformation a réussi. Donc on a besoin de gènes marqueurs. J'y reviendrai parce que vous avez peut-être entendu une polémique sur les risques liés à ces gènes marqueurs qui ont été, et qui sont encore rarement maintenant, des gènes de résistance aux antibiotiques. Et puis, il faut un signal de fin de transcription, donc des gènes terminateurs. Alors, vous voyez que ce qu'on appelle le transgène, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué. Les séquences intéressantes qui portent les qualités sont au milieu, mais il y a tout un tas d'autres morceaux d'ADN qui vont être utiles pour que ça marche, quoi. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. On n'intègre pas simplement des gènes d'intérêt. Alors, d'où viennent ces gènes? Moi, j'ai pris deux exemples, retenez pas les détails, mais simplement le promoteur, hein, ce qui permet le démarrage de la lecture du transgène. Vous voyez ici, ça peut être un promoteur d'un virus. Hein, c'est le virus de la mosaïque du chou-fleur. Bon. Ça peut être une plante elle-même. Et dans du maïs, ça peut être un gène qui vient du maïs. Les gènes régulateurs, ben là on va retrouver à nouveau le virus de la mosaïque du chou-fleur, mais ça peut être aussi un régulateur qui vient du maïs. Les gènes d'intérêt souvent, pas toujours, mais souvent viennent de micro-organismes. Alors ici, il s'agit de moisissures, Aspergillus dans ce cas-là, Fusarium dans ce cas-là, sont des champignons microscopiques. Ça peut être des gènes qui viennent de bactéries. Hein, donc on a vu virus, champignons, donc bactéries. Ici, une autre bactérie pour le gène marqueur, un gène d'Escherichia coli, une bactérie très courante. Ici, un gène de végétal, un gène de pomme de terre, puis on va retrouver le virus de la mosaïque du chou-fleur qui est très, très souvent utilisé. Alors, cette construction génétique, le transgène, ça fait donc un morceau d'ADN assez long et qui en fait se présente sous forme circulaire et on appelle ça un plasmide. On le reproduit pour que on le multiplie dans des modèles bactériens. Et puis, on va le faire intégrer dans des cultures de cellules végétales. Donc, si on veut transformer un maïs dans des cellules de maïs, le maïs d'un maïs qui est sensible à un insecte. C'est l'un des exemples très développés de maïs transgénique. Le maïs est attaqué par des insectes. Et la pyrale, ce maïs est attaqué par la larve de la pyrale, pas par l'insecte adulte, mais par la larve qui va s'introduire dans la tige, qui va manger une partie de la tige, et cette tige va casser, et donc le maïs ne pourra pas être récolté, donc il n'y aura pas d'épi qui va se former. Pour lutter contre cette pyrale, cette larve de pyrale, donc l'adulte, hein, c'est un papillon, pour lutter contre cette larve de pyrale, on va donc faire une transformation génétique. On fait de la culture de cellules végétales, c'est une technologie maintenant très, très courante en physiologie végétale, et puis on va essayer d'introduire ces plasmides dans les cellules végétales. Une fois qu'on a réussi, qu'on les a triées grâce aux gènes marqueurs, on va multiplier ces cellules et régénérer la plante. Ça aussi, c'est une technique classique en physiologie végétale. Donc, l'étape de génie génétique, c'est vraiment celle-là. C'est celle où on va introduire les gènes étrangers. Alors, comment est-ce qu'on fait pour introduire ces gènes? Bon, je passe très rapidement, mais j'ai déjà évoqué, on peut utiliser donc une bactérie. C'était le cas d'Agrobacterium, qui va, si on intègre ces plasmides dans la bactérie, elle va elle-même injecter ce plasmide dans la plante. On prend garde quand même d'avoir ce qu'on dit désarmer la bactérie, c'est-à-dire qu'elle ne va pas développer la tumeur dans la plante. Et on sait pourquoi elle fait une tumeur, donc on la modifie pour qu'elle ne développe pas de la tumeur, mais qu'elle injecte son plasmide. Mais il y a d'autres techniques, la biolistique, on appelle ça des canons à gènes. Eh bien, ces plasmides, ils peuvent être chargés dans évidemment, ce n'est pas un gros canon, hein, c'est un tout petit appareil qui va permettre donc d'injecter ces plasmides carrément dans la cellule et ils vont s'incorporer dans le génome. C'est une technique extrêmement simple, hein. Ou bien on les injecte par micro-injection, comme si c'était une seringue, évidemment c'est tout petit. Donc il y a plusieurs techniques possibles pour faire rentrer cette construction, hein, les plasmides, à l'intérieur des cellules végétales. Et puis on régénère les plantes. Alors on en vient à où en sommes-nous? Quant à la culture de ces plantes génétiquement modifiées dans le monde. En France, j'y reviendrai très peu. Mais dans le monde. Voilà l'évolution de ces cultures. En 2006, l'année dernière, plus de 100 millions, c'est en millions d'hectares, l'échelle là, plus de 100 millions d'hectares. 100 millions d'hectares, ça représente un peu plus de presque deux fois et demi, enfin, plus que deux fois la superficie de la France. Et en termes de surface agricole en France, ça doit faire à peu près 10 fois, enfin pas loin de 10 fois la surface agricole de la France. Donc vous voyez que c'est pas rien. Ça progresse dans les pays industrialisés, mais avec une pente qui a fléchi à la fin du siècle dernier. On peut peut-être expliquer ce fléchissement par une certaine opposition, une opposition certaine des citoyens d'un certain nombre de ces pays industrialisés. Au contraire, pour les pays en développement, la courbe s'est accélérée vers 2002 et la croissance devient très importante. Alors, dans quel pays est-ce qu'on cultive ces OGM? Essentiellement aux États-Unis d'Amérique. Pour les chiffres de 2006 diffèrent pas beaucoup en termes de pourcentage dans chacun des pays, hein. Donc, c'est encore aux États-Unis d'Amérique qu'on cultive le plus d'OGM dans le monde, plus de 50%. L'Argentine, dont la part est importante, qui a cru encore en 2006, qui est revenue au-delà des 20%. Le Brésil, où la culture de GM croît également très rapidement. Le Canada, mais on va voir, ça ne bouge pas beaucoup. Et on va voir que c'est une seule culture, une seule plante qui est cultivée. La Chine, alors la Chine, c'est très difficile de savoir exactement quel est le chiffre. J'ai mis un chiffre là de 4%. Pour 2006, c'est à peu près la même chose. Pour assurer des collaborations scientifiques avec les Chinois, je doute quand même que ce chiffre corresponde à la réalité. Et je pense que c'est beaucoup plus que ça du pourcentage mondial qui est cultivé en Chine. Et pour les autres pays, c'était 6% en 2005 dans au moins 16 pays. Alors, qu'en est-il de l'Europe? En Europe, il y a deux pays dans lesquels on cultive sur des surfaces assez importantes des OGM. C'est l'Espagne, d'une part, et essentiellement du maïs, et la Roumanie, où c'est du maïs et du soja. En Espagne, il doit y avoir plus de 100 000 hectares de cultivés en OGM en 2006. Hein, donc, je répète, essentiellement maïs. Et en Roumanie, à peu près la même chose. En France, qu'en est-il? L'année dernière, en 2006, on pense qu'il y a eu à peu près 5 000 hectares de cultivés en maïs transgénique, de façon tout à fait autorisée, plus quelques expérimentations du domaine de la recherche. Alors, quelles sont les espèces végétales qui sont cultivées? Très majoritairement le soja. Hein. Vous avez vu, c'était les États-Unis d'Amérique qui en cultivaient le plus, parce que sont eux qui cultivent beaucoup de soja. Mais aussi Brésil et Argentine. Le maïs, qui vient assez loin derrière. Le coton, et en particulier en Inde, on n'a pas vu apparaître l'Inde, mais la culture du coton se développe pas mal en Inde, et puis en Chine aussi. Le colza, alors ça, c'est caractéristique du Canada. Hein. Et donc, c'est pour ça que ça ne bouge pas tellement. C'est le Canada qui produit la totalité du colza transgénique. Et puis, retenez ça, les autres cultures, c'est rien du tout, c'est moins de 1%. Hein. Donc, 4 espèces végétales et le reste, c'est du domaine du laboratoire, de la curiosité de laboratoire. Quelles sont les qualités qu'on a introduites, les nouvelles qualités qu'on a introduites dans les plantes génétiquement modifiées ? Essentiellement de la tolérance aux herbicides. Pour se débarrasser des mauvaises herbes, on traite avec des herbicides chimiques dont certains sont quand même très dommageables pour l'environnement. Et donc la tolérance aux herbicides, ça veut dire qu'on peut utiliser des herbicides dits systémiques qui sont quand même un peu moins méchants pour l'environnement. Résistance aux insectes, j'ai évoqué hein, un maïs qui résistait à la pyrale du maïs. Et puis, les deux résistances introduites dans la même plante, aux herbicides et aux insectes. Le reste, c'est rien. Donc, de nouveau, on est au niveau de la curiosité de laboratoire. Donc, vous retenez bien ça, quel type d'application. Alors, bien sûr, on pourrait... Cette technique peut être applicable et appliquée à l'amélioration de la qualité nutritionnelle des plantes. Si on vise l'alimentation des pays en développement, dans lesquels il y a des carences nutritionnelles multiples, on sait faire, on a les moyens de modifier et d'améliorer la qualité des protéines en améliorant l'équilibre en acides aminés, d'améliorer la qualité des lipides en modifiant la composition d'acides gras, je vais y revenir, ou de modifier la qualité des glucides. Mais aussi, on peut augmenter la teneur en vitamines, la teneur en minéraux et en oligo-éléments, ou la teneur en constituants végétaux dont on pense qu'ils ont des effets bénéfiques pour la santé. Alors, un exemple de ce qu'on a fait aux États-Unis, et c'est quelque chose qui est sur le marché, c'est un soja dont on a modifié la composition des lipides. Donc on va avoir une huile de soja complètement modifiée. Alors pourquoi modifiée? Nous, on n'utilise pas d'huile de soja en France et quasiment pas en Europe. C'est une huile qui est très fluide, elle coule, mais elle est très très fluide, elle fiche pas quand on la met au froid, et elle est très oxydable, elle est très sensible à l'oxydation et elle rancit. Bon, le goût de rance, vous voyez ce que c'est vraiment tout à fait inacceptable. Et donc, pour l'utiliser, et en particulier dans l'industrie, en biscuiterie, en pâtisserie, enfin dans toute l'industrie alimentaire, on ne peut pas l'utiliser comme ça, et on est obligé de l'hydrogéner, c'est-à-dire de la rendre moins fluide et moins oxydable. Et ça produit, c'est un traitement chimique qui coûte cher, qui prend du temps, et qui produit au passage des acides gras trans, dont vous avez sans doute entendu parler, qui ne sont pas très bons pour le système cardiovasculaire. Donc ça n'a que des inconvénients, tout ça. Et si on la modifie, cette huile, on modifie sa composition par génie génétique, eh bien, on va arriver à. Alors, elle est fluide parce qu'elle est très riche en cet acide-là, linoléique. Elle est assez riche aussi en celui-là, naturellement, linolénique, oméga-3. Vous avez vu de la pub pour des produits riches en oméga-3. Hein, c'est bon pour tout. Enfin, on pourra en revenir là-dessus dans la discussion, puisque mon équipe de recherche a été, au plan international, l'une des premières à montrer que ces oméga-3 étaient indispensables pour le développement du système nerveux, c'est pas pour autant que c'est bon pour tout, on pourra en discuter. Mais donc, ça fait que c'est fluide, ça coule, et que c'est sensible à l'oxydation. Une fois qu'on l'a transformé par génie génétique, vous voyez, on est passé de 60% à presque rien pour le linoléique, et de 9,5% à 2% en gros pour l'alpha-linolénique. Donc, on a obtenu, et alors en plus, on a obtenu quelque chose dont la composition ressemble à celle de l'huile d'olive, dont vous avez tous entendu dire qu'elle était extra pour la santé. Je ne suis pas non plus tellement persuadé de ça, mais enfin, on pourra en discuter après. Alors, pourquoi est-ce qu'on a réussi à faire ça? C'est parce qu'au laboratoire, on disposait d'OGM, mais outils de laboratoire, qui ont permis de décortiquer, on ne va pas rentrer dans le détail, mais pour arriver à faire cette transformation, pour arriver au résultat que je vous ai présenté, il fallait savoir comment ça fonctionnait. Donc il fallait connaître la biochimie de la plante, et il fallait avoir identifié les différentes étapes de la chaîne métabolique qui permettaient de ne pas fabriquer ces deux acides gras-là, ce sont ceux qu'on a supprimés. Alors c'est assez marrant parce que on a supprimé dans ce soja transgénique des oméga-3 en particulier, mais qu'il y a des projets, vous ne regardez pas les détails, mais ça c'est une vue que j'ai empruntée à Monsanto, donc c'est une des firmes qui fabrique des OGM, et là c'est un projet qui consiste à enrichir, au contraire, en oméga-3. Mais là ce ne sera pas les mêmes, c'est des chaînes plus longues, enfin, mais vous voyez qu'on peut, on peut modifier dans tous les sens avec des objectifs qui sont assez différents. Alors, un autre exemple qui pourrait être intéressant, parce que les firmes de biotechnologie nous disent, grâce aux OGM, on va régler les problèmes de la faim dans le monde. Ah, est-ce vrai? Alors, ça, c'était un projet qui a démarré en Suisse en 1996 ou 97 peut-être. Et donc, c'était un projet de riz dit doré, à cause de sa couleur, enrichi en bêta-carotène, qui est un précurseur de la vitamine A. Il y a dans tous les pays en développement des gros problèmes de carence en vitamine A qui peuvent conduire à la cécité, donc beaucoup d'enfants deviennent aveugles, et même conduire à la mort quand la carence est sévère. Et donc il est sûr qu'un riz qui apporterait le précurseur de vitamine A en quantité suffisante pourrait être très intéressant à la condition qu'il soit accepté par les populations qui soient consommées. Donc c'était vraiment un développement tout à fait, dont on voyait vraiment l'utilité. Ben le problème, c'est qu'il n'existe toujours pas ce riz. Parce qu'au départ, la teneur en bêta-carotène était trop faible. Et puis en plus, les constructions génétiques nouvelles avaient été introduites dans des variétés de riz qui ne correspondaient pas du tout aux variétés qui sont cultivées, en particulier en Asie. Ce n'étaient pas des variétés de qualité agronomique suffisante. Donc les chercheurs sont toujours en train d'essayer. Je pense qu'ils sont pratiquement arrivés maintenant, mais ça n'existe toujours pas. Donc on ne peut pas nous dire qu'on a plein d'exemples d'applications qui permettent de régler les problèmes de la faim dans le monde. Aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Vous avez bien compris que les applications dont j'ai parlé sont des applications qui concernent les grandes cultures dans les grands pays agricoles. Hein? Ce n'est pas des applications qui concernent les pays en développement, résistance ce type de résistance. Alors, l'application, elle est intéressante dans le riz doré. Mais les opposants aux OGM ne disent pas toujours la vérité. Et ça, c'est ce que j'avais trouvé il y a un petit moment. Peut-être que le site a été corrigé. Vandana Shiva est quelqu'un qui milite contre les OGM de façon très active. Et donc, j'avais trouvé sur son site ces éléments-là, en disant, mais on peut régler les problèmes de carence en vitamine A par d'autres méthodes. Le génie génétique va créer des carences en vitamine A, ça j'ai pas bien compris pourquoi. Mais en tout cas, bon, on peut régler ces problèmes de carence par d'autres méthodes. Si c'était vrai, ça se saurait, et il y a longtemps qu'on aurait progressé dans ce domaine. C'est pas aussi facile que ça. Elle voulait, à l'appui de sa thèse, montrer que beaucoup de végétaux traditionnels, aliments traditionnels, étaient très riches en bêta-carotène. Et voilà des chiffres qu'elle donne, qui sont tout à fait exacts, mais elle les présentait en milligrammes par 100 grammes. Malheureusement, il s'agissait de microgrammes et pas de milligrammes, donc il y avait un facteur 1000 d'écart, et que dans ces conditions, c'est pas aussi facile que ça de régler les problèmes de carence en vitamine A en mangeant du chou, des épinards et des carottes. Enfin, bon, et encore faut-il que les populations qui en ont besoin soient habituées à ça. Alors, voilà toute une liste de projets qu'on peut imaginer dans le domaine des applications dites de deuxième génération, celles dont vous pouvez voir tout de suite qu'elles sont utiles pour les consommateurs. Ou alors, il y a plein de choses, des grains de café sans caféine, pour éviter le traitement au solvant qui permet d'enlever la caféine dans le café décaféiné qui laisse des résidus de solvant. Bon, on peut avoir des cafés sans caféine, ça existe aussi au niveau du labo. Enfin, il y a plein de possibilités, mais tout ceci n'existe pas. Ça existe dans les laboratoires. Et donc, il ne faut pas que les firmes vous disent que c'est demain que ça va être sur le marché. Pour l'instant, ça n'existe pas. Alors voilà, on est dans une situation où les firmes de biotechnologie vous disent c'est merveilleux, on va tout faire avec ça, et donc régler les problèmes de la faim dans le monde, et où les opposants vous présentent cette technologie comme étant, enfin c'est la Frankenstein bouffe, hein, c'est le risque majeur, on va vous transformer, on va vous modifier vous-même. Si vous mangez des OGM, vous allez devenir des OGM. Alors bon, quelques photos comme ça dans des revues, je les ai prises à l'étranger. Bon, enfin, chez nous, on avait bien les mêmes. Et puis, dans un contexte où il me semble que les consommateurs ont peur de ce qu'ils mangent. Il y a une anxiété fantastique vis-à-vis de notre alimentation. Et alors, c'est à un tel point, ça va venir chez nous, on n'en est peut-être pas. Ça provient d'une revue anglo-saxonne. Les avocats se mêlent de la partie. Et donc, tout le monde pourrait porter plainte si un aliment a causé un petit désagrément, je ne sais pas, mais ça va peut-être aller jusqu'à des inconvénients intestinaux. Peut-être que demain, des consommateurs vont attaquer une firme de l'agroalimentaire parce qu'ils ont eu un dérangement intestinal à cause d'un aliment consommé. Donc, la réglementation devient de plus en plus sévère. Et on demande de plus en plus de sécurité, et avec l'apparition du principe de précaution, les choses ne se sont pas arrangées. Tous nos politiques tremblent devant le moindre problème de santé dont on pourrait leur attribuer la responsabilité. Donc écoutez ce qui se passe en ce moment, c'est assez intéressant. Et donc ce débat de société porte sur un certain nombre d'éléments. La transgression de la barrière d'espèce. Je vous ai dit que, bon, ok, c'est vrai que c'est une transgression, mais que ça existe dans la nature. Bon. Quels sont les effets sur l'environnement et la biodiversité? Je ne m'arrête pas là-dessus. Donc, on va maintenant passer, oui, aussi vite que possible, aux effets à long terme sur la santé et est-ce qu'on a les méthodes pour évaluer ces effets, sachant qu'il y a d'autres problèmes dont on pourra discuter ensuite, de traçabilité, d'étiquetage, d'existence d'aliments sans OGM, quelle influence ont ces technologies sur le développement de l'agriculture, en particulier sur le développement de l'agriculture durable, et puis comment les citoyens participent au débat de société sur ces questions. Alors, bon, quels sont les problèmes? Vous avez vu ce qu'on introduit dans une plante génétiquement modifiée. Des gènes d'intérêt, des gènes marqueurs. Alors, ces gènes-là, si on les introduit, c'est parce qu'ils vont produire quelque chose. Et ce quelque chose, c'est à tout coup une protéine. Et donc, premier problème de sécurité, la toxicité des protéines qui sont exprimées dans la plante, qui n'existaient pas dans la plante traditionnelle et qui sont exprimées dans la plante génétiquement modifiée. Ça, on sait le faire par les méthodes de la toxicologie traditionnelle. Ces protéines sont exprimées en très faible quantité. Elles sont chimiquement définies, on en connaît la structure. Et donc, on peut faire comme on fait en toxicologie, avec un médicament, avec un additif alimentaire, avec un pesticide, avec un contaminant. C'est les méthodes traditionnelles de la toxicologie. On utilise de l'expérimentation animale, on force la dose. C'est ça qui est très important. On force la dose, on en met 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois parfois, la dose à laquelle nous sommes exposés pour un médicament, pour un pesticide. Donc, et ça ne déséquilibre pas le régime des animaux. Et donc, on peut développer des méthodes traditionnelles qui ont été mises au point petit à petit au cours des 50 dernières années. Ces protéines exprimées, nouvelles, sont souvent donc des enzymes, ont des activités enzymatiques qui interviennent dans des voies métaboliques. La voie métabolique qui est liée à la qualité qu'on a introduite dans la plante, mais ces voies métaboliques peuvent servir à autre chose aussi dans la plante. Et donc, ça, si on a une bonne connaissance du métabolisme de la plante, on va savoir que non seulement les enzymes introduites vont pouvoir intervenir pour donner la qualité recherchée à la plante, mais aussi pour modifier éventuellement d'autres voies métaboliques de la plante. Mais ça, on sait le rechercher dans la mesure où on connaît le métabolisme de la plante. Et on le connaîtra d'autant mieux d'ailleurs qu'on aura des outils pour étudier ça. Un problème qui est souvent soulevé, sans doute que vous avez entendu parler, mais bon, c'est vrai pour les plantes transgéniques, mais c'est vrai en général pour l'alimentation, le risque allergène. Mais ça, moi, je n'ai pas la solution, mais mes collègues non plus. Il n'y a pas de méthode qui permette de prévoir à 100% a priori le risque allergène de n'importe quel aliment. Donc c'est vrai pour les OGM, c'est vrai pour tous les aliments. Et c'est d'ailleurs, si on savait le faire, si on avait su le faire, je pense que les kiwis, les litchis n'auraient jamais été autorisés, puisqu'ils sont responsables d'allergies chez l'homme. Les conséquences nutritionnelles de la consommation de la plante. Alors, si ces plantes sont vraiment intéressantes, j'ai évoqué l'amélioration des propriétés nutritionnelles, elles pourraient avoir un succès commercial formidable et se substituer à des aliments courants qui sont pourtant très importants pour nous. Donc, il faut faire attention à ça. Et ça, on peut le modéliser. Hein, on dit, ben voilà, tel nouvel aliment va prendre 5%, 10% du marché, 25%. Ça, on le modélise et on sait évaluer les conséquences que pourrait avoir un tel succès. Un autre risque, j'ai évoqué les gènes marqueurs de résistance aux antibiotiques. C'est la transmission de cette résistance aux antibiotiques à des micro-organismes du tube digestif des animaux, mais aussi de notre tube digestif. Hein, vous savez qu'on a une flore intestinale très riche, plein de micro-organismes, et qu'on peut imaginer que les gènes de résistance des plantes résistantes aux antibiotiques vont passer dans nos micro-organismes. Le risque n'est pas nul, il est infinitésimal et malheureusement, la situation de la résistance aux antibiotiques est telle que c'était une goutte d'eau dans la mer. Ceci étant, pour les micro-organismes du sol, ce n'est pas tout à fait pareil et donc il y a très peu maintenant d'OGM qui renferment des gènes de résistance aux antibiotiques et l'année prochaine, il n'y en aura plus du tout en Europe puisque ce sera interdit. Empilement de gènes. Hein, j'ai dit, il y a des plantes qui sont à la fois résistantes aux herbicides et résistantes aux insectes. Donc, si on empile de gènes d'intérêt, c'est pas. Bon, ça va encore, on peut arriver à prévoir. Mais on peut imaginer qu'on va empiler de plus en plus de gènes pour accumuler les propriétés nouvelles intéressantes dans des plantes transgéniques. Là, je ne sais pas trop comment on fera. Les mélanges entre. Alors, ces plantes transgéniques, bon, j'évoque les plantes alimentaires. Animal pour l'animal ou pour l'homme. Mais il y a aussi des plantes transgéniques qui produisent des médicaments. Il y a aussi des plantes transgéniques qui produisent des molécules utilisées à des fins industrielles. Comment est-ce qu'on va éviter le mélange entre un colza qui va être utilisé pour l'alimentation des animaux et pour produire de l'huile pour l'alimentation humaine, et puis un colza utilisé à des fins industrielles ou à des fins pharmaceutiques? Donc ça encore, il y a des méthodes qui permettent, mais on pourra discuter, ce n'est pas aussi facile que ça. Est-ce qu'on ne risque pas d'augmenter la teneur en composés toxiques dans ces OGM? Parce qu'il ne faut pas croire que les végétaux, dits naturels, enfin naturels, ça fait quand même des siècles que l'homme bricole les plantes que nous consommons aujourd'hui, hein. Mais enfin, il ne faut pas croire qu'elles sont dépourvues de composés toxiques ou antinutritionnels. Et donc la sélection a toujours fait en sorte que le niveau de ces composés toxiques ou antinutritionnels reste en dessous du seuil de toxicité pour le consommateur humain ou animal. Et donc, à chaque fois qu'on fait de la sélection, on prend garde de ne pas augmenter les teneurs dans ces composés toxiques, et ça arrive. C'est arrivé pour la pomme de terre, c'est arrivé pour le céleri, en sélection traditionnelle. Ça pourrait arriver avec les méthodes du génie génétique, et donc on fait très attention, on connaît ces toxiques, on les mesure, et on fait très attention que leur teneur n'augmente pas. Ce qui reste, eh bien, c'est les effets non prévisibles. Supposons que l'introduction de cette construction génétique nouvelle conduisent à la production de composés toxiques, mais qu'on ne connaît pas. Et si on ne les connaît pas, on ne peut pas les trouver. Hein? On trouve que ce qu'on cherche. Mais si on ne sait pas ce que c'est, on a peu de chances de les trouver. Et donc c'est ça la vraie question, c'est ça la question la plus difficile qui nous reste à régler dans le domaine des OGM. Et alors, pour essayer de régler cette question, eh bien, on utilise non pas des méthodes de la toxicologie traditionnelle, parce que là, on ne peut pas forcer la dose, parce que c'est la plante elle-même qu'il faut tester, l'ensemble, ou la graine, si la transformation concerne la graine. Et là, on ne peut pas forcer la dose, on ne peut pas mettre 1000 fois la dose de maïs que va consommer la population mexicaine, hein, qui mange beaucoup de tortillas et qui consomme donc beaucoup de maïs. Et donc on peut mettre au maximum 100% de maïs dans l'alimentation du rat, mais ça ne fait pas un coefficient de sécurité très important. Donc on a des méthodes qui ne conviennent pas, qui ne marchent pas pour ça. Alors est-ce que c'est seulement pour ça? Donc ce qu'on adopte pour l'instant, c'est une comparaison. On a un maïs génétiquement modifié qui provient d'un maïs parental non modifié. Eh bien on va comparer les deux. Et on va comparer les deux sur un certain nombre de critères. Donc d'abord l'allure, hein, quand on fait de la sélection, traditionnelle ou génétique, de temps en temps on a des plantes quand même qui ont un drôle d'aspect, une drôle d'allure. Alors on les élimine. Premier tri. Bon, ensuite on les met en culture, bon, d'abord au labo, mais ensuite sous serre. Puis on aimerait bien, si on ne nous les détruit pas, les mettre en culture de façon expérimentale au champ, de manière à voir comment elles se comportent en fonction du climat, des attaques par les insectes, par les virus, quel est leur rendement, s'il y a une différence entre la plante parentale et la plante transgénique. Puis une fois qu'on les a cultivés, on les récolte et puis on les analyse pour voir s'il y a encore des différences entre la plante parentale et la plante cultivée. Et puis si on a vraiment des inquiétudes particulières à partir de ces différentes étapes, on va essayer de faire de l'expérimentation animale. Mais je dis bien essayer parce que là, c'est vraiment extrêmement difficile, puisque les méthodes ne sont pas adaptées pour tester des aliments, puisque ça va peut-être vous surprendre, mais aucun des aliments que vous consommez tous les jours n'a jamais été testé au plan de sa sécurité sanitaire. Sauf les aliments irradiés, vous en rencontrez sans doute pas souvent, puis vous n'êtes peut-être pas très favorable, et pour une toute petite part, les aliments réchauffés ou cuits au four à micro-ondes. Tous les autres aliments n'ont jamais été l'objet de moindres tests en matière de toxicologie ou de sécurité sanitaire. Donc, pour l'instant, on utilise cette méthode comparative, qui n'est pas une évaluation toxicologique au sens propre du terme, mais dont les conclusions sont, s'il n'y a pas de différence mise en évidence, le maïs transgénique est aussi sûr que le maïs traditionnel. Ou aussi peu sûr, hein, je ne sais pas, selon que vous êtes pessimiste ou optimiste. Donc on pourra revenir après. Je vais finir en 2 minutes par la difficulté du scientifique placé face aux médias. Vous avez, pour ceux qui passent beaucoup de temps sur Internet, vu certainement il y a à peu près un mois, il y a 1 million de personnes hein, qui ont vu ce message. Le message suivant, j'ai recopié carrément ce que j'ai reçu. Hein. Voici un reportage de lundi Investigation sur Canal+, très intéressant. Il a été interdit d'antenne et ne passera donc jamais sur la chaîne. Regardez-le vite avant qu'il ne disparaisse d'Internet, à diffuser avant la censure définitive. Et ça concernait donc un maïs transgénique, le MON 863, qui était présenté comme toxique et dangereux pour la santé de l'animal et de l'homme. Alors, c'était pas du tout vrai. Ce reportage a été diffusé sur Canal+, le 15 novembre 2005, Moi-même, j'ai réuni tous les responsables communication des centres, des 21 centres de l'INRA en France, pour analyser la cassette et mettre le doigt sur tous les mensonges et les inexactitudes qui étaient présents dans ce reportage. Donc, c'est pas vrai, il n'y a jamais eu de censure, et il a même été diffusé une deuxième fois sur Canal Plus Internet. Donc, et en plus, donc, ce reportage était truffé d'inexactitudes. Et donc...
Aïe, ça y est, une fois de plus.
J'ai branché. Le micro, c'est pas pour vous, celui-là. C'est pour la caméra. Bien. Alors, donc, c'était pas du tout vrai. Et puis, il y a eu une suite à ça. Alors, vous avez peut-être vu aussi dans la presse que la semaine dernière, il y a eu une conférence de presse convoquée par une ancienne ministre de l'Environnement, Corinne Lepage, au cours de laquelle a été présenté un article, toujours sur le même OGM, mettant soi-disant en évidence les risques pour la santé de ce maïs transgénique. On pourra revenir là-dessus. Il semble que cette coïncidence n'en soit pas une. D'abord, ce message sur Internet, diffusé par on ne sait qui, mais dans lequel quand même au centre figuraient Corinne Lepage et puis le président de l'association que Corinne Lepage a montée et qui s'appelle le professeur Serralini. Et puis la conférence de presse, 15 jours ou 3 semaines après, avec le même professeur Serralini et la publication d'un article, bon, sur lequel, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dont toute la communauté scientifique dit que, en tout cas, il n'apporte rien de nouveau, puisque c'est simplement une nouvelle analyse de résultats qui ont déjà été publiés. Bon, coïncidence, campagne présidentielle, que sais-je. Les scientifiques, au milieu de tout ça, évidemment, conférence de presse, beaucoup de journalistes, et le lendemain, toute la presse nationale reprenant l'information, et même le soir même, toutes les télévisions. Donc on pourra revenir sur comment vous pouvez vous faire une idée de la réalité des choses avec la couverture médiatique telle qu'elle existe dans certains domaines, et en particulier dans le domaine des OGM. Donc ma conclusion, c'est celle-là. On n'est pas capable aujourd'hui, je pense que vous l'avez perçu, de répondre à toutes vos questions concernant les effets des OGM. Alors pas les effets toxiques, hein, si c'était toxique, ça se saurait, mais... des effets de petite amplitude, des effets discrets, qui pourraient à long terme avoir une conséquence sur votre santé. Pas plus que sur tous les aliments que vous consommez tous les jours. Et en particulier sur des aliments un peu exotiques, qu'on voit apparaître dans les supermarchés tous les mois, où vous voyez des aliments nouveaux, en particulier des noix, qui viennent d'un peu partout, qui sont toutes responsables d'allergies d'ailleurs, hein, dont personne... n'a jamais demandé si elles avaient la moindre responsabilité dans l'allergie, que personne n'a jamais testé. On vous dit simplement, elles sont consommées dans tel pays lointain sans problème. Oui, sans problème, qui est allé voir s'il n'y avait pas de problème. Enfin bon. Donc, ce ne sont pas des problèmes spécifiques. J'ai évoqué l'allergie. Ce n'est pas spécifique des OGM. L'allergie est un problème général. Donc, beaucoup de questions ne sont pas spécifiques, mais... ça a conduit les toxicologues, les hygiénistes d'alimentation à s'interroger sur les méthodes dont ils disposaient. Alors il y a beaucoup de chercheurs qui disent nos méthodes, elles sont parfaites. Évidemment, ils en vivent. Hein, et ils les appliquent tous les jours et ils demandent des crédits pour continuer de les appliquer. Donc ils ne vont pas dire qu'elles ne sont pas tout à fait adaptées. Ceci dit, en recherche, on a intérêt à les faire progresser et à explorer de nouvelles voies grâce aux progrès du génie génétique, de la biologie en général, qui sont fantastiques au cours des 20 dernières années. Et que donc, en fait, pour le moment, alors les voies de recherche, pour l'évoquer, si ça vous intéresse, les nouvelles voies, hein, mais pour le moment, donc, on utilise cette comparaison entre des aliments qui n'ont jamais été testés à proprement parler avec les méthodes de la toxicologie, mais dont on peut penser qu'ils sont sûrs, puisqu'on les consomme, depuis tout le temps, enfin depuis longtemps. Et donc si on ne voit pas de différence entre l'OGM, sauf pour les facteurs qu'on a volontairement introduits, et je vous ai dit qu'on savait faire pour tester les protéines, eh bien on considère que c'est aussi sûr que. Et pour l'instant on en est là, et si certains consommateurs veulent qu'on leur garantisse le risque zéro, En matière d'OGM, il ne faut surtout pas qu'ils en consomment, il ne faut surtout pas qu'ils en achètent. Mais je ne sais pas comment ils vont gérer leur alimentation par ailleurs, puisque personne ne peut, et sûrement pas moi, leur garantir que le risque est nul en consommant ce que nous consommons tous les jours. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et maintenant je pense que la discussion est ouverte sur tous les aspects évoqués, y compris éventuellement un problème d'environnement, en espérant que je serai capable de répondre, et puis des aspects concernant la sécurité sanitaire, la santé de l'alimentation en général. Enfin voilà, vous avez la parole.